Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. On n'aurait jamais cru vous passer Ariana Grande dans cette émission un jour, mais nous sommes solidaires, malheureusement encore, et évidemment toujours. Toutes nos pensées vont donc aux gamins de Manchester et à leurs parents, victimes d'un concert. Qui aurait cru un jour que de minables barbares s'en prennent aux gamins d'un concert ? C'est un programme qui va célébrer la vie, les échanges, l'ouverture sur le monde, la fraternité et la résistance grâce aux livres. C'est le sommaire que nous avions prévu bien avant le drame de Manchester. Alors encore plus aujourd'hui, nous le revendiquons et nous le portons vers vous. Nous recevrons le Suisse Jean-François Haas pour un recueil de nouvelles qui dresse le portrait d'un monde qui se déshumanise. Le grand artiste kabyle Idir est aussi sur notre plateau. Il jouera un titre très émouvant dans ce studio accompagné par sa fille et il participera à un grand débat sur les livres et la lecture avec Régine de Tambelle et Vincent Monadet. Entretien croisé et rencontres inédites, la lecture abordée comme une thérapie sera notre sujet et nous poserons une réflexion sur ces hommes qui lisent, paraît-il, moins que les femmes.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme d'habitude, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou, féroce et intègre. Tout va bien pour vous Jérémy ?
Oui, on tente de l'être et de le rester.
Voilà, on résiste, vous avez raison. Déborah Damblon est libraire en Belgique, à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
En France, c'est le retour de Mathieu Colombe, libraire à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard. Et en Suisse, c'est la douce Laura Sanchez à Genève, dans la librairie du Boulevard. Bonjour à vous deux.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Voilà, un tatoué et une douce jeune femme, c'est parfait. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Idir.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir dans la librairie francophone. Tous les mois, nous proposons une grande rencontre entre auteurs et artistes. Nous parlerons de la lecture chez les hommes et les femmes, vous l'avez compris. La lecture comme thérapie aussi, vous participerez à ce débat à votre convenance. Mais on commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle étonnante que je découvre en même temps que tout le monde. Vous avez carte blanche, Idir.
Ben, c'était à mes débuts. Il n'y avait pas de lycée dans mon village, donc nous étions obligés de venir sur Alger pour aller faire le secondaire, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça ici, c'est-à-dire de seconde, première.
Oui, ça dépend du pays dans lequel on est, mais c'est à peu près ça.
Et le hasard a fait que le lycée où j'étais, Eugène Delacroix, était juste en face de la radio de chez nous.
Oui.
Donc, je gratouillais un peu de la guitare, et puis de là à ce que quelques notes aient traversé, il n'y avait qu'un pas, quoi. Voilà. Mmh. Et puis, un jour, je devais faire une musique pour une fille qui était tombée malade. Elle n'a pas pu venir à l'émission. Le producteur m'a appelé, affolé. J'ai été la remplacer au pied levé. Et le lendemain, Rad Maret Courrier, c'est qui, c'est quoi ? Enfin, toutes ces questions.
En parlant de vous,
oui. Ouais, voilà. Ouais. Jusqu'à ma maman qui me parlait de moi sans savoir que c'était son fils. Parce qu'elle m'avait envoyé pour avoir un diplôme. Ouais. Alors que la chanson chez nous était perçue un peu d'une manière tout à fait, disons, péjorative. Et donc, je ne voulais pas lui faire de peine. Donc, elle me parlait de moi. Je lui dis oui, je l'ai vu, je le vois de temps en temps. Elle me dit, il chante bien. Ah oui, voilà. Et finalement, 8 mois après, quand elle l'a su, elle n'a pas aimé du tout. Elle a commencé à pleurer parce que...
Pourquoi ?
Tout, mais pas son fils, quoi. Son fils, c'était un ingénieur ou un docteur.
Ah, ne devait pas chanter, voilà. Pas à saltabanque, c'est ça ?
Voilà.
Et c'est comme ça que vous avez commencé ?
Absolument.
Avec le fameux tube que tout le monde connaît ?
Voilà. Avaveille-nous.
Voilà. Voilà que vous avez commencé dans les années 70. Merci pour cette histoire. Merci. Très belle histoire. Idir est dans la librairie francophone cette semaine.
Et bonjour Jean-François Haas.
Bonjour.
Vous êtes un auteur suisse que l'on suit depuis quelques années déjà, on vous soutient depuis quelques années. Après 5 romans, vous publiez un recueil de nouvelles, Le Testament d'Adam, aux éditions du Seuil. Alors vos 7 histoires portent un regard sur le monde, sur la société suisse notamment, et c'est accablant. Dans la dernière nouvelle, par exemple, Bobo, le personnage développe une sorte de métaphore autour des exclus, ceux qui n'ont pas les moyens de vivre dans notre société occidentale. Pour eux, la seule issue, c'est de quitter notre monde, et ce malgré eux. En tout cas, c'est un peu la morale de cette histoire.
Oui, de quitter le monde, ou peut-être, d'une certaine façon, par ce qu'il nous donne, de le renouveler,
ouais.
De nous interroger. Quelle complicité nous avons avec l'aspect négatif du monde, et donc d'essayer de le rendre meilleur pour les bobos de plus tard.
Les bobos, c'est votre personnage.
Voilà, hein. C'est Bobo.
C'est pas les bourgeois bohèmes.
C'est
le personnage. Bobo qui est un jeune homme qui vit avec sa grand-mère malade dans un sous-sol humide. Hein. C'est vraiment, c'est Cosette. Hein. Son père est clochard, sa mère l'a chassé et il y a Manu. Manu est un Portugais qui va donner un peu d'espoir. Et c'est ça l'espoir de vos nouvelles. À chaque fois, Jean-François Haas, vous montrez que la fraternité est possible.
Oui, absolument. Ça reste une conviction pour moi depuis ma jeunesse. Et je crois que, en effet, c'est la seule solution pour s'en sortir. Être frère, ça n'est pas facile. On dit quelquefois, ses amis, on les choisit.
Oui, hein. Oui. Ça devient des frères parfois aussi.
Ouais. Oui. Mais les frères, c'est pas le cas. Ça suppose des négociations. Mais il y a là, je pense, une possibilité d'envisager un avenir pour le monde. Quoi.
Vous pensez qu'on a tous cette capacité à nouer des relations fraternelles avec l'autre?
Je crois que l'homme est fait pour ça. L'homme est un être de relation. Tant que l'homme en reste au « je », il est fermé sur lui-même.
Ouais, ouais.
L'homme commence à exister, pour moi, à partir du moment où il est capable de dire « tu » à quelqu'un.
Et de dire « nous » ensuite.
Et de dire « nous » ensuite, oui.
Alors, il y a 4 libraires qui ont lu votre recueil de nouvelles, Jean-François Haas. On va donner la parole à un premier libraire critique. Laura Sanchez est en Suisse, c'est à vous, Laura.
Oui, eh bien moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé votre recueil, monsieur Haas. D'abord parce qu'on retrouve votre écriture humaniste et soignée, mais cette fois dans un style beaucoup plus direct que dans vos livres précédents, et ça fonctionne quand même très, très bien. Je voulais mettre en avant la première nouvelle, moi, qui m'a beaucoup marquée, parce qu'elle reflète très, très bien l'histoire de l'immigration en Suisse de ces dernières décennies.
Oui, alors la première nouvelle, Jean-François Haas, avec les Portugais. Les Portugais qui reviennent souvent dans vos histoires. Dans cette première histoire, il y a cet étudiant d'origine portugaise qui va être victime du racisme. Et vous montrez ce racisme entre Européens qui existe depuis toujours en Suisse.
Oui, tout à fait. C'est une histoire qui a débuté au moins à la fin du 19e siècle avec l'arrivée d'une première vague d'immigrants italiens.
Mm-hmm.
Oui. Et les Portugais, ben, pour moi, il y a une sensibilité peut-être particulière, c'est que j'habite un village de 3500 habitants où il y a à peu près 800 Portugais, ceci à cause d'une industrie qui est présente dans la région. Et puis j'ai eu, dans mes dernières années d'enseignant, pas mal d'élèves portugais que j'ai beaucoup admirés. Parce que, comme toujours, les jeunes de seconde génération sont des élèves qui ont quelque chose
qui
à donner.
Hein,
ils en veulent. Ouais,
d'où cet hommage aux Portugais dans vos histoires.
Voilà, tout à fait.
On va écouter la BO du roman, Jean-François Haas. On vous a demandé quel titre illustrerait le mieux votre livre, comme dans un film. Et vous avez choisi 3 Québécois. Je rappelle que vous êtes suisse, c'est parfait, vous êtes parfait pour la librairie francophone. Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault, ensemble, s'il vous plaît, avec « Quand les hommes vivront d'amour ». On écoute un extrait, c'était en concert dans les années 70, et vous nous expliquez juste après.
Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants, de la sagesse ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront
Tout le monde chantonne en plateau, c'est parfait. Le titre idéal. Pourquoi ce titre, Jean-François Haas?
C'est un titre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. J'ai écouté je ne sais pas combien de fois, le 33 tours à l'époque. Hein, c'était, je crois que la platine est usée. Mais c'était un chant qui me permettait de me situer, si vous voulez, parce que je crois qu'il y a ce rêve qu'on vive d'amour. Et puis en même temps, c'est dans la grande chaîne de la vie et nous, on n'y arrivera peut-être pas. Mais il y a un avenir.
Il y a un avenir. Dans votre recueil de nouvelles paru aux éditions du Seuil, il y a l'histoire d'Alexandre qui prend un téléphérique et qui tombe sur un passager qui est un ancien garde suisse, persuadé que les musulmans vont envahir la Suisse, comme ils envahiront d'ailleurs la France, c'est ce qu'il dit. Ce garde suisse est aussi homophobe. Ça fait beaucoup, non?
Oui, bah c'est quelqu'un qui, pour les musulmans, a probablement lu Michel Houellebecq, je crois.
Oui, c'est ça, il le cite d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc, on a actuellement des gens qui vivent comme ça, sur la défensive, et qui vivent uniquement sur des clichés qu'on a véhiculés. Je ne vais pas remuer beaucoup de choses, mais les dernières élections dans un certain nombre de pays, on a vu ressortir aussi toutes ces thématiques. Donc ce personnage, il s'est imposé à moi au moment des élections fédérales en Suisse.
En Suisse,
où justement on a entendu ce type de vocabulaire, et entre autres un garde suisse, donc, qui avait été à Rome, cette garde magnifique qui protège le pape, ce garde suisse disait qu'il allait voter pour notre parti d'ultra-droite.
L'UDC.
L'UDC. Et en même temps, il tenait des propos homophobes. Enfin voilà, donc j'ai pas eu beaucoup de peine à le créer.
Vous allez assez loin, Jean-François, parce que dans cette même histoire, vous attaquez un tabou, presque un tabou en Suisse. Cette histoire des Juifs raccompagnés à la frontière franco-suisse pendant la guerre. Et il y a le grand-père d'Alexandre, justement. Alors Alexandre, c'est celui qui est dans le téléphérique, qui est homosexuel, qui tombe sur ce garde suisse. Et il se souvient que son grand-père avait ramené lui-même, avait accompagné, si on peut dire, en tout cas avait jeté les Juifs dans la gueule du loup, puisque quand ils arrivaient à la frontière, ils étaient récupérés par les nazis.
Oui, c'est une histoire qui a demandé un très gros effort de mémoire. Ce n'est que dans les années 90 qu'on a pu en parler, qu'il y a une enquête officielle qui a été faite. Et encore aujourd'hui, certains aimeraient bien repousser cette enquête sous le tapis. C'est une des sales histoires de notre histoire suisse. C'est le refus des Juifs. Mais il y avait un antisémitisme chez nous. Il était d'ailleurs présent dans tous les pays européens. C'est facile de dire aujourd'hui, les Allemands étaient antisémites. Je ne veux pas dédouaner les nazis en disant ça, mais l'antisémitisme était partout.
Mais alors, pensez-vous qu'on porte une responsabilité? Parce qu'il y a cette question aussi. Il y a le copain d'Alexandre qui lui dit « Le crime, c'est d'avoir donné des ordres aussi monstrueux à exécuter à des garçons de 20 ans. » Alors, est-ce qu'on est, d'une façon indirecte, responsable de ce que nos parents ont fait, Jean-François?
C'est une chose dont je me méfierais, parce que c'est une des raisons qui ont fait, entre autres, l'antisémitisme. Ils ont crucifié le Christ. Bon, on connaît l'histoire. Je crois qu'on ne peut pas faire porter la responsabilité aux enfants. Par contre, on doit permettre aux enfants de s'interroger et de poser un jugement moral sur ce qui s'est passé.
Les trois autres libraires, donc on va les écouter, Jean-François, avec la France, le Canada ou la Belgique. Qui préférez-vous?
Oh là là, impossible. C'est un choix impossible.
Vous aurez les trois. Qu'on commence par qui? Allez.
Bon, puisqu'on a écouté
allez, un peu de courage, Jean-François.
Le loup, le renard et le lion.
Le
alors,
Canada.
On va aller au Canada.
Vous préférez le Canada? Allons-y, Jérémy Laniel.
Allez-y. Ben, d'abord, excellent choix de BO. Vraiment, c'était un plaisir de l'écouter.
Bon, c'est hors sujet.
Hors sujet, mais bon, c'était la troisième fois que je lisais As pour cette émission et je dois l'admettre, je ne l'ai jamais trouvé aussi fort qu'en nouvelle. Les personnages sont justes. Il se déplie rapidement dans la généreuse écriture de Haas. Sans être manichéen, l'œuvre de Haas en est une foncièrement d'ombre et de lumière. Et il y a toujours ce caractère social qui vient parfois plomber ou éclairer les histoires. C'est un ou l'autre, dépendamment de la nouvelle. Vraiment, ce fut un plaisir de le retrouver.
Très bien. La France, Mathieu Colombe.
Eh bien, comme mes petits camarades, moi j'ai vraiment accroché à ce recueil, effectivement, parce que le style est fluide, les nouvelles s'enchaînent avec une grande facilité, et heureusement, parce qu'à côté de ça, c'est vrai que les sujets abordés, comme vous l'avez dit, sont plutôt durs, ils amènent à réfléchir sur les rapports humains au sein de la société, et il faut bien dire que le constat est très amer. Après, libre lecteur, d'en tirer une leçon, un enseignement, de comprendre le message d'amour et de tolérance lové entre les mots.
Oh, c'est joli ça. Déborah Damblon, en Belgique, êtes-vous d'accord?
Eh ben oui, pour faire original.
Carton plat.
Comme mes petits camarades, moi ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié, c'est la très belle humanité de votre écriture, son côté naturaliste, implacable, qui présente vraiment les choses comme elles sont, voilà, sans phare. Et puis, vos personnages sont justes, ils sont authentiques, ils prennent le lecteur par le cœur, par les tripes, et ils l'emmènent vraiment avec lui. Là, ce que vous avez aussi réussi, je trouve, c'est un talent que vous avez pour nous faire entrer dans l'intimité de l'autre, et puis pour nous aider à apprivoiser ce qui, chez lui, pourrait peut-être nous inquiéter.
Il y a des choses qui nous inquiètent effectivement quand on vous lit Jean-François Haas, et il y a cette fracture récurrente, choquante entre les nantis et ceux qui n'ont rien ou presque. C'est une fracture sociale qui vous révolte, ça?
Oui, tout à fait. Je crois qu'on est dans un monde uni. On est les enfants d'Adam, si je peux employer ça comme métaphore, hein, simplement, mais on est les enfants d'Adam. Et on sait bien que dans une famille, normalement, on devrait trouver un équilibre pour que tous les enfants aient leur part autour de la table. Or, manifestement, notre monde ne va pas dans cette direction. On entend aujourd'hui que la misère augmente, que dans nos sociétés, on parle très souvent de l'Angleterre si brillante économiquement. Je voudrais pas dire du mal de l'Angleterre aujourd'hui, étant donné ce qui s'est produit. Mais en Angleterre, il y a des familles qui essayent de faire adopter leurs enfants parce qu'elles n'arrivent plus à les entretenir. Ouais. Donc c'est une régression d'au moins un siècle.
Le monde se déshumanise, hein, c'est ce que vous montrez, notamment dans des pays comme la Suisse, dans votre pays,
oui,
c'est ce que vous racontez.
Tout à fait. On compte 800 000 pauvres pour 8 millions d'habitants. Hein. Voilà, c'est une chose qui est très lourde à porter, mais je crois qu'on peut faire l'examen dans tous nos pays. Et il faut essayer, je crois, de lutter avec nos moyens. Bah, moi, j'ai les mots.
Exactement.
J'ai les mots, j'essaye d'écrire. Voilà.
C'est un grand auteur, Jean-François Haas. Voilà, je montre ce livre au plateau à tous nos invités. Le Testament d'Adam est paru aux éditions du Seuil, un recueil de nouvelles assez sombre, vous l'avez entendu. À vous, lecteurs, donc, de trouver les lueurs d'espoir et de les intégrer dans vos vies. Félicitations, Jean-François, vous avez séduit nos libraires et je le redis, vous êtes un grand écrivain. Merci à vous. Vous restez bien sûr avec nous, puisqu'on va parler des livres et de la lecture avec un grand débat. Les livres Thérapie de l'âme, les femmes défenseurs de la lecture. Nous serons avec Régine de Tambel, Vincent Monadet, Idir et Tanina. Bonjour Vincent Monadet.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Comment faire lire les hommes de votre vie? C'est le titre de votre essai paru chez Payot. Les femmes lisent donc plus que les hommes, c'est factuel ça?
Oui, toutes les études montrent que deux choses. D'abord qu'il y a un décroché vers l'âge de 13-14 ans et que ce décroché des lecteurs concerne essentiellement les garçons. Et que d'autre part, le grand lecteur est une grande lectrice en fait, puisque ce sont les femmes qui, dans tous les genres à l'exception de la BD, arrivent très largement en tête sur la fiction.
Ouais.
C'est moins vrai sur la non-fiction, c'est moins vrai sur la presse. Les hommes lisent beaucoup de presse et ils lisent aussi de l'histoire. Mais surtout ce qui est genre fictionnel, ce sont les femmes qui lisent.
Très bien, on poursuit ce débat tout à l'heure avec vous, avant de retrouver Idir en duo avec sa fille dans nos studios. Voici un extrait de son dernier album composé de grands duos en français et en kabyle. C'est une rencontre incroyable, un événement musical. Idir chante avec Charles Aznavour, La Bohème, et c'est dans la librairie francophone.
Arkoui graf bez man as mi veden wa man ma kent el lili nes ben tar dek verdan dik se verdi kharkan e da o djili war nik si vi milyen wala sur di flan tsarraf kan di tamzi w nhess bdek wsan w rili w gdi shqan siwa kem adnkini la La bohème, adesse nafkhar, amarah bestayri. La bohème, la bohème, asentella, tawam pentemzi. Niki ket khusni trahim tarni ras shinam ula shesni khur nijji. Asnar wal miziriya. نسر ما زكاق دبور تسن اللي أدن بندي ثمورا غنى وذكرى نبغى مدوينا كوي نتمني نتسير ذي ترقى نومن تلموزيقى دي مديازن مثل اللي لا بو
صبون تقصر دق متروني وكنا دناوي منسي من ميت ثغلي دورو النازل سابس دورو قدهين تغيبي مين عين استعفو تخمتاتي بني خروبة بس يقبل سكريدي تفرارة ما تثرزو أديث برنان الدو أبريدة تناوي لا بوابة La bohème, le nouveau-né, à cette fidélité. La bohème, la bohème, elle a dit chaud, comme d'un rayon.
Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin. De la lignée d'un sein du galbe d'une hanche.
Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps.
Idir et Charles Aznavour, la bohème sur votre radio francophone. Comment s'est passée cette rencontre et cet enregistrement, Idir?
J'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui était originaire de mon pays et qui a épousé la fille de Charles Aznavour.
Ah d'accord.
Donc il lui a fait écouter Lettre à ma fille.
Oui.
Ça l'a séduit. Il a dit bon, j'ai envie de connaître ce monsieur.
Ah, ça vient de cette chanson là.
Voilà.
Et que vous allez jouer tout à l'heure dans nos studios en direct.
Absolument.
C'est le hasard de la vie, c'est comme ça.
Absolument.
Alors dans le livret de votre album Ici et ailleurs qui vient de sortir, vous dites ce n'est pas une confrontation d'idées, mais simplement des moments de plaisir. Pourtant, dans les chansons que vous avez choisies, La Bohème, Née quelque part, L'hymne de nos campagnes de trio, il y en a des idées, il y en a des idées fortes.
Bien sûr. On ne les partage pas, j'aime pas trop ce mot partage.
Ah bon?
Bon, chacun prend sa part et puis chacun va chez lui.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Voilà, j'aime pas aussi essayer de confronter des idées ou échanger nos solitudes, c'est pas ça. Le problème, c'est à chaque fois de vivre, mais de vivre de très bons moments ensemble,
ouais.
Où on savoura toujours éternellement, on déclarera nos flammes, disons, sentimentales les uns pour les autres.
Et avec les albums Identité et La France des couleurs, vous aviez déjà fait des duos et avec des idées très fortes aussi.
Ben, je l'espère.
Oui. Il faut écouter ces albums, ils sont sublimes. Ben, je répète, Identité et La France des couleurs. Merci beaucoup, Idir. On vous retrouvera tout à l'heure.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici, Radio-Canada Première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vous présentent les coups de gueule et les coups de cœur. Et on commence avec un coup de gueule, Mathieu Colombe, pour la France.
Oui, un bon gros coup de gueule, parce que tout bêtement, l'autre jour, je parlais avec une de mes libraires qui commence à vraiment s'inquiéter, parce que bientôt, c'est la rentrée littéraire.
C'est déjà la rentrée
littéraire. Voilà, et la rentrée littéraire en librairie, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est au minimum 650 bouquins qui débarquent d'un coup, on n'a pas eu le temps de tous les lire, certains verront jamais la couleur d'une table, parce que de toute façon, on n'a pas la place de les placer, donc ils iront directement de dessous la table à retour chez l'éditeur. On va travailler salement parce que vu qu'on n'aura pas eu le temps de tous les lire, ben, quand on va nous demander ce qu'on en pense, on ne pourra pas le dire parce qu'on ne les a pas lus. Et après, alors, vous allez me dire, oui, mais vous avez le choix du libraire, vous n'êtes pas obligé de tout prendre.
Oui,
mais
puis surtout, vous avez du temps puisqu'on vous les envoie dès maintenant.
Voilà, on nous envoie dès maintenant. Alors déjà, on n'aura jamais le temps de tout lire. Déjà, c'est obligé.
Mais bon, ça,
Et ensuite, au niveau du choix du libraire, on est obligé de prendre un minimum de livres, ce qui fait déjà trop parce qu'il ne faut pas
qu'on rate. C'est
le
quoi truc Qu'est-ce qui vous énerve?
Mais le truc qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de rationalisation de cette chose-là. Il y a beaucoup trop de sorties.
D'accord.
Il y avait beaucoup,
tout en même temps.
Tout en même temps.
Très bien, merci Mathieu. En Suisse, Laura Sanchez, un coup de cœur pour un roman, paraît-il.
Mais oui.
Pour la rentrée littéraire.
Non, alors non. Il est déjà paru, on est tranquille pour la rentrée. Moi, j'aimerais vous parler du deuxième roman de Sotchil Borel. Alors, retenez ce nom, s'il vous plaît, car c'est une sacrée plume. Elle nous emmène cette fois dans les rues de Genève. On croise Elliot, jeune flic à l'âme blessée, qui sera renvoyé à force de vouloir élucider ce qui semble être un xième suicide de migrants en détresse. Mais ce livre est évidemment bien plus qu'une enquête policière, tellement la prose poétique de l'auteur est absolument sublime. Ce roman s'appelle « Les oies de l'île Rousseau » et c'est paru aux éditions de l'Air.
Merci Laura.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Régine de Tambel.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Les livres Prennent soin de nous, paru en 2015 chez Actes Sud, ressort dans la collection Poche Babel. Avec Vincent Monadet, nous allons parler de la lecture sans être ennuyeux. Vous allez voir, ça va vous étonner. Et d'ailleurs pour vous Régine, les livres peuvent soigner. Ils peuvent soigner la tristesse, l'isolement, le désespoir. On peut trouver des clés pour supporter sa vie.
Absolument. Alors attention, moi je vais quand même un peu
tempérer,
définir. Allez-y. Vous définir l'activité de bibliothérapie comme moi je la conçois, ouais, parce qu'il y a évidemment des bibliothérapies et il y a des formes de bibliothérapie que je réprouve, mais vraiment avec beaucoup de violence, notamment la prescription, notamment ces choses-là. Donc je vais un peu vous dire moi où j'en suis avec
alors,
ça.
Alors où en êtes-vous hein?
Alors moi, c'est pour ça que j'étais ravie d'entendre des chants, d'entendre des voix, d'entendre l'oralité
ici. C'est pas fini, c'est pas fini.
En jeu, c'est ça qui est magnifique. Et précisément, mon travail, c'est un travail qui, si vous voulez, est au carrefour de mes deux vocations, puisque je suis d'une part soignante, ma sœur kinésithérapeute, maintenant. J'ai abandonné la masso-kinésithérapie pour la bibliothérapie, mais je suis aussi écrivain, donc je publie depuis 27 ans, presque 30 ans. Donc, de l'intérieur, pour moi, lire, écrire, c'est la même chose, c'est le même mouvement, c'est la même dynamique. Et à force d'avoir une expérience, si vous voulez, une expérience hospitalière, une expérience en maison de retraite, en tant que kiné, et de voir que les gens sont abandonnés sans récit, sans métaphore, sans figure de style, sans possibilité de se dire, de se raconter. Et quand j'ai vu que finalement, pour eux, pour les personnes qui interviennent avec des livres, c'est juste leur apporter des bouquins, ça s'appelle du portage de documents. Voilà, ça s'appelle du portage de documents.
Oui,
et moi, je dis non, il faut un médiateur, il faut un intermédiaire, et c'est la voix, et c'est la voix humaine.
Et vous dites que ce ne sont pas les livres de développement personnel qui peuvent nous aider, mais plutôt les romans.
Alors pourquoi ?
Avant que vous posiez votre question, je vais poser la mienne.
D'accord, allez-y.
N'est-ce pas un placebo, finalement, les romans ? N'est-ce pas une illusion ? Et n'est-ce pas dangereux de laisser entendre ça ? Est-ce que finalement, quand on referme le livre, on n'entre pas dans une réalité qui est là, quoi qu'il arrive?
D'accord. Là, moi, je vais vous parler en tant que bibliothérapeute. Et j'ai, si vous voulez, j'ai même créé ma méthode, je l'ai nommée d'un néologisme qui est bibliocréativité.
Oui.
Alors, il ne s'agit pas pour moi de prescrire des romans. Il ne s'agit pas pour moi de faire lire des personnes en leur disant « Tenez, lisez ça, ça va vous faire du bien. » Ça, pour moi, c'est scandaleux. Voilà, je vous le dis clairement. Moi, mon travail, c'est un travail d'animation. C'est-à-dire que je vais dire des morceaux de texte, dire de la poésie, dire un aphorisme. Je ne vais pas leur dire, voilà, je vais vous lire un texte d'un tel, une telle, etc. Pas du tout. Ça va être vraiment un travail sur le corps, un travail sur le souffle, un travail sur le fait d'être redynamisé par de la métaphore, par des figures de style, par des interprétations. Et si vous voulez, je travaille presque pas avec le sens. Voilà, j'exagère pour que Vincent puisse avoir sa place tout à l'heure. Voilà.
On va lui donner la parole tout de suite à Vincent. Parce que Vincent, dans son livre « Comment faire lire les hommes de votre vie », vous expliquez qu'il y a des livres qui vous ont aidé significativement à une période de votre vie.
Oui, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de chagrin que j'ai connu qu'un livre n'ait pas réussi à mettre dans une grotte et à amoindrir. Alors lui, il dit effectivement, je n'ai pas qu'une heure de lecture, n'ai réussi à consoler. Ce n'est pas tout à fait consoler, c'est-à-dire qu'on s'isole, on plonge dans une œuvre, elle nous enferme dans une bulle. Quand on ressort, la douleur est toujours là, mais elle a déjà été amoindrie par cette heure privilégiée qu'on a passée à l'oublier.
Ça vous a aidé à surmonter les décès de certains proches, votre grand-père, votre tante, vos amis proches. Et alors, vous ne lisez pas seulement des romans, Vincent, vous l'avouez, vous dites par exemple que Astérix en Corse ou les Rubrica Braque de Gottlieb, ça vous a profondément aidé, ça.
Ah non, mais Astérix en Corse, c'est extraordinaire de drôlerie. Enfin, il y a deux médicaments absolus, c'est les tontons flingueurs et Astérix en Corse. Astérix en Corse, quand il dit, pour lui faire comprendre quelque chose, on a le temps de tuer un âne à coups de figue molle, mais moi je peux lire ça 50 fois, je ris toujours.
Idir, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont aidé, vous ? Ou en tout cas dans l'expression. Alors, l'expression du texte.
Moi, j'ai fait mes études de secondaire chez les Pères Blancs et on nous obligeait à lire un livre par semaine. Ah oui. On nous le donnait le lundi. Il fallait venir le vendredi, le commenter pour être sûr qu'on l'a bien lu.
Et certains vous ont aidé, vous ont bouleversé, ont changé votre vie?
Tous les classiques anglais, style Charles Dickens et compagnie, Hugo.
D'accord, Victor Hugo.
Voilà. Et... beaucoup d'écrivains.
Il y a des lectures, Régine de Tambelle, qui peuvent alléger une déprime. Dans votre livre, vous citez les nourritures terrestres d'André Gide, et certains lisent les consolations de Sénèque, par exemple, pour faire un deuil. Ça, vous y croyez ou pas?
Tout à fait. Alors, il s'agit pas de croyance, encore une fois.
Je sais que vous êtes très précise.
Voilà, bon. Oui.
Êtes-vous d'accord à peu près avec ce qu'on dit?
Voilà. Non, franchement, je préfère être précise parce que je crois que justement, vous savez, ce qui ranime les personnes, et on le voit autour de cette table, c'est que quand on parle, il y a une espèce de tonus qui vient, il y a une espèce de... Voilà. Et moi, c'est à ça que je pense quand je suis devant des patients ou quand je suis devant des lecteurs créatifs, comme je les appelle. Je pense à ça d'abord, si vous voulez. Mais effectivement, le sens est extrêmement important et c'est surtout autoriser des personnes à ressentir des choses ou à accepter des choses. Moi, je travaille uniquement avec des textes subversifs, c'est-à-dire des textes qui ne renouvellent pas les stéréotypes constants dont on nous matraque toute la journée.
Mais comme disait Kafka, et vous le citez d'ailleurs, on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent.
Voilà, alors lui, il était redoutable pour ça.
On va voir si votre livre ont mordu et piqué les libraires, Régine de Tambelle, avec La France ou la Belgique? Tiens, on commence par qui?
La Belgique.
La Belgique, Déborah Damblon.
Bah, Madame de Tambelle, moi, c'est pas la première fois que je vous lis. Et puis, chaque fois que vous parlez de lecture, et puis de lecture et son plaisir, bah, j'ai juste envie de vous remercier, de vous embrasser, de vous faire plein de câlins. Alors, merci. Mais juste
quand je
merci.
Vous dis que ça redynamise. Non, ça...
C'est surtout qu'il y a des libraires qui dérapent chez nous.
Oui. Exactement, ça redynamise.
Allez-y, dérapez.
Alors, merci vraiment de prêter vos mots à nos sentiments, à mes sentiments. Et merci pour ce livre qu'on a envie de partager autant qu'on le peut. Et puis, s'il vous plaît, puissent nos dirigeants vous écouter et comprendre à quel point les livres et tous ceux qui les font vivre sont essentiels à notre bonheur.
Mathieu Colomb pour la France, des bisous, des câlins.
Ouais, non, quand même, pas trop mon genre, mais... Alors par contre, vraiment, faut que j'avoue, je suis quand même très d'accord avec votre concept de bibliothérapie, ça m'a vraiment frappé le coin du bon sens. En plus, je trouve que c'est servi avec un style absolument fantastique, une érudition sans faille, donc c'était très agréable à lire. Et même si habituellement je suis assez hermétique au concept de joie, de bonheur et de bien-être, ben, j'avoue que cette fois-ci, ça m'a fait du bien quand même.
Voilà, ce qui peut faire du bien aussi, c'est la poésie. On en parle assez souvent dans cette émission. La poésie qui comporterait trois puissants pouvoirs, selon votre livre, Régine, et selon les études d'ailleurs. La poésie, c'est le rythme, la sonorité et la pensée. Et d'ailleurs, à l'école, si je peux me permettre de rajouter, la poésie ne s'étudie pas seulement dans le texte, on la déclame, on va au tableau. Qui n'a pas eu l'angoisse du lundi matin avec la poésie à réciter au tableau devant tout le monde?
Voilà. Sauf que le problème, c'est que le corps est un peu maintenu dans un carcan à l'école.
Oui.
Et que du coup, il faudrait qu'on ait plus d'ouverture, enfin, je sais pas, qu'on ait des comédiens, qu'on ait systématiquement, je veux dire, que ce soit vraiment ça l'enseignement des textes, et que ce soit pas cette espèce de distance qu'on prend toujours, même si on a des bons profs, parce que je sais qu'il y a des profs qui nous écoutent partout, ils ont pas fait prof pour rien, ils ont pas fait prof de lettres pour rien, donc ça veut dire qu'ils ont cette ouverture, cette reconnaissance de tout ce qui se passe dans le livre, dans tout ce que le livre leur passe de corporel, de physique et tout, mais ils ne peuvent pas le retransmettre, ça. Oui.
La lecture à haute voix, c'est ça qu'il faut développer selon vous, parce que c'est une activité physique et organique.
Oui. Mais tout est physique, y compris l'écriture.
Non, mais tout le monde. Enfin, là, pour le coup, je peux être que d'accord. Les plus grands festivals émergents, que ce soit, on va prendre deux exemples, Toulouse et Manosque, et la Maison de la Poésie.
En France, oui.
En France, en tout cas, Morges en Suisse, par exemple, que je connais bien, j'ai pas pu encore aller au Canada, il y a de la lecture à voix haute, parce que c'est cette lecture à voix haute qui d'abord crée un lien avec le spectateur et qui rend chair au corps. C'est quelque chose qui a une chair. Et si on ne fait que le lire et qu'on ne le déclame pas, qu'on ne l'entend pas déclamer, ça ne suffit pas.
Oui, il faut le déclamer soi-même aussi. Il faut pas être passif face à des comédiens qui font le show.
Je suis complètement d'accord.
Ça aussi, c'est tout mon travail.
Et il faut que ce soit les écrivains écrivains qui lisent eux-mêmes leurs textes et les lecteurs qui osent lire leurs textes.
Voilà, il faut qu'on ait vraiment un échange parce que ça suffit, cette espèce de sacralisation, l'écrivain d'un côté ou le comédien d'un côté, et puis les autres qui sont toujours public passif.
Alors vous écrivez justement, Régine de Tambel, où est notre corps propre, tandis que nous lisons, il s'affaire, il estime le degré de corporalité du texte, il apprécie comment tel chapitre joue avec son savoir kinésique, le flatte ou au contraire le tourne en dérision jusqu'à l'oppression, jusqu'au vertige. Le corps et l'esprit du lecteur ne sont pas dissociables. C'est pourquoi un livre peut bouleverser, transformer, régénérer, soigner, secouer, tant par son sujet que par son écriture ou même par son support. Tout écrivain, tout lecteur chante ou chante toujours quand on pense. Quand on se croit immobile, des mouvements involontaires du larynx accompagnent toujours la pensée, même apparemment silencieuse.
Absolument. Et vous parlez du support, importance du papier, plus le papier, c'est la peau. On a souvent besoin de toucher, vous êtes tous là avec des petits papiers, des choses.
Ah oui, ça,
on a besoin de
papier,
toucher cette peau papier. Vous en êtes partout.
Voilà. Et l'écriture c'est une façon de vivre avec son corps.
Tout à fait, s'inscrire. Vous savez, les tatouages, on se scarifierait peut-être moins, on se tatouerait peut-être moins quand on a 15 ans, 16 ans, si justement on pouvait encore mettre du corps dans le papier et jouer ce jeu incroyable. C'est vraiment une projection de moi sur ce papier.
Alors vous citez Henri Beauchaud, le Belge Henri Beauchaud, qui a écrit jusqu'à l'âge de 99 ans. Et je me souviens de sa dernière interview, c'était chez lui pour la librairie francophone. Et quand je suis arrivé, je vais vous confier ça, quand je suis arrivé chez lui, je me suis dit, on n'arrivera jamais à faire l'interview tant il était diminué. Et quand on a commencé à parler du texte, il s'est produit une magie incroyable, presque mystique. Il s'est illuminé. On a fait une interview incroyable.
Ouais.
Voilà, donc des choses
traversées. Vous avez traversée. Presque dit.
Non, mais voilà. Non, donc tout est là.
Mais c'est
vrai.
Ça. Ouais. On peut ranimer des personnes avec en les faisant parler. Le récit de soi est magique.
Vous restez avec nous, Régine. On poursuit ce débat sur la lecture avec le livre de Vincent Monadé. Les femmes lisent-elles vraiment plus que les hommes? Et comment peut-on faire lire les hommes? Telle est la question. Élément de réponse dans un instant. Et dans cette plus grande librairie du monde, on part en Belgique. Coup de gueule ou coup de cœur, Déborah Damblon?
Eh bien, Emmanuel, si vous le permettez, un coup de gueule un peu féministe.
Allez-y.
Allez. Mais oui, parce qu'on vient de passer la fête des mères. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce que les diffuseurs nous proposent de mettre en avant. Eh bien, c'est des trucs roses, c'est des trucs dégoulinants. Ce sont des romances, des livres de cuisine, des livres justement de développement personnel. On en parlait tout à l'heure.
Ouais.
Comme si on n'avait pas de cerveau, quoi. Alors, heureusement que les libraires sont là pour faire un peu le tri là-dedans.
Exactement. Les mères ont un cerveau. C'est bien de le rappeler, Déborah.
Oh.
Jérémy Lagnel, inutile de vous demander, en cette douce période de fête des mères, un gros coup de gueule.
C'est ça. Un gros coup de gueule, oui. Quelle belle époque dans laquelle nous vivons, Emmanuel, hein. Sous le règne des nouvelles technologies, mais plusieurs relèguent le livre aux oubliettes. Mais c'est qu'ils ont vite fait d'oublier notre bon fond commun de romantisme. Hein? Et c'est exactement ce relent de romantisme qui amène plusieurs moustiques à errer près de l'hôtel littéraire hein, duquel découle le savoir. Tous peuvent désormais écrire. Voilà une nouvelle vérité. Et l'édition répondant au dictat économique, on doit vendre la copie. Bien, de ce fait, nos librairies croulent sous les dernières parutions de nos vedettes préférées. Souvenirs d'enfance, anecdotes de tournée, savoir-vivre, livres de recettes, signés de la blanche main de ces chanteurs, comédiens, animateurs de toutes sortes. Si Sartre disait qu'on entrait dans un mort comme on entre dans un moulin, j'aimerais bien croire ardemment qu'on ne puisse pas dire la même chose d'une maison d'édition.
Très bien. Il y en a des bons quand même. Vous êtes très dur, hein, Jérémy. Vraiment, hein. Vous êtes le libraire sévère hein, de cette émission parce que Raphaël, par exemple, chez Gallimard, il a publié un recueil de nouvelles tout à fait honorable. Bon, merci pour ce coup de gueule quand même.
Plaisir.
La librairie francophone avec Jean-François Haas, Régine de Tambel, Vincent Monadé, Idir et Tanina pour un grand débat autour des livres et de la lecture-thérapie. Et voici un texte magnifique, justement, on va illustrer tout ce que disait Régine de Tambel tout à l'heure. Idir rend hommage à sa fille dans le titre « Lettre à ma fille ». Il est dans notre studio et elle est au piano. Voici Tanina et Idir en acoustique et c'est le son du monde de la semaine dans la librairie francophone.
Comme tous les matins, tu es passé devant ce miroir, ajusté ce voile sur tes cheveux, qui devra tenir jusqu'à ce soir. Tu m'as dit au revoir d'un regard avant de quitter la maison. Le bus t'emmène à la fac où tu te construis un horizon. Je suis resté immobile et j'ai pensé très fort à toi, réalisant la joie immense de te voir vivre sous mon toit. C'est vrai, je ne te l'ai jamais dit, ni trop fort, ni tout bas. Mais tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je t'ai élevé de mon mieux et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition, comme l'ont fait mes parents, crois-moi, sans riposter. Comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée. Je t'ai élevé de mon mieux, comme le font tous les nôtres. Mais était-ce pour ton bien ou pour faire comme les autres? Tous ces doutes qui apparaissent et cette question affreuse. C'est moi qui t'ai élevé, mais es-tu seulement heureuse? Je sais que je suis sévère et nombreux sont les interdits. Tu rentres tout de suite après l'école et ne sors jamais le samedi. Mais plus ça va et moins j'arrive à effacer cette pensée. Tu songes à quoi dans ta chambre quand tes amis vont danser? Tout le monde est fier de toi. Tu as toujours été une bonne élève. Mais a-t-on vu assez souvent un vrai sourire sur tes lèvres? Tout ça, je me le demande, mais jamais en face de toi. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et si on décidait que tous les bien-pensants se taisent? Si pour un temps on oubliait ces convenances qui nous pèsent? Si pour une fois tu avais le droit de faire ce que tu veux? Si pour une fois tu allais danser en lâchant tes cheveux? Je veux que tu cries et que tu chantes à la face du monde. Je veux que tu laisses épanouir tous ces désirs qui t'inondent. Je veux que tu sortes, je veux que tu ris, je veux que tu parles d'amour. Je veux que tu aies le droit d'avoir 20 ans, au moins pour quelques jours. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou, même si tu ne le vois pas. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.
Idir et Tanina, dans les conditions du direct, dans les studios de la librairie francophone. Vous pouvez applaudir, hein, on est quelques-uns en plateau, mais vous pouvez applaudir avec Tanina qui nous rejoint. Vous nous rejoignez sur ce plateau et vous êtes sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. C'est un texte réalisé avec Grand Corps Malade. Vous l'avez fait vôtre, hein, ce texte, Idir?
J'ai essayé, oui.
Complètement. Et dans cette chanson, c'est vrai, ce slam finalement, l'éducation est présentée comme le pilier essentiel. Et surtout, c'est l'émancipation et tout ce qu'on devient après.
Oui.
Tout part de là.
Moi, je suis issu d'une culture, tradition orale. Et puis, où le dogme, la religion passe toujours au second plan, après la tradition en tout cas. Et donc là, on a imaginé quelqu'un qui s'est débarrassé de sa panoplie de parfaits petits croyants et qui ouvre son cœur à sa fille et qui se rend compte, tout en parlant, qu'il n'y a rien de plus fort. Aucune religion au monde ne peut enlever ça, quoi.
Et qu'est-ce qu'elle en pense, la fille, Tanina? Vous ressentez quoi à ce moment-là? Parce que ça doit être très dur d'accompagner son père qui vous déclame ça, non?
Oui, bah c'est émouvant déjà d'une part. Et puis, pour faire le lien avec un peu le sujet de ce qui est dit ici, c'est vrai qu'aussi par la lecture, c'est un moyen de s'émanciper aussi.
Ouais.
Et que si j'ai un père, moi, qui m'a beaucoup incité à m'instruire, à lire et à comprendre l'environnement qui nous entoure, quoi.
On va continuer cette conversation tous ensemble.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Débat sur le livre et la lecture dans la librairie francophone cette semaine avec Régine de Tambel, Idir, Tanina et Vincent Monadet. Alors Vincent, dans votre essai « Comment faire lire les hommes de votre vie », il y a beaucoup d'humour. Vous, l'ancien libraire, amoureux des livres, vous conseillez les femmes pour faire lire celui que vous nommez « Chéri ». Alors selon vous, « Chéri » se préoccupe plus de sport que de littérature. C'est un gros cliché, c'est de la provocation?
Oui, c'est une caricature.
Oui, complètement
assumée.
Complètement assumée.
Une caricature parfaitement assumée, aussi bien des hommes que des femmes. C'est un jeu avec les clichés. Bien sûr, c'était pour faire rire, ouais. Pour faire rire et pour en finir avec la culpabilité terrible qui est liée à la littérature, au moins dans un pays comme la France, qui est celui que je connais le mieux, où on sacralise la littérature, où les gens qui ne lisent pas sont quasiment pointés du doigt, où on les empêche même, en faisant ça, de revenir vers la lecture, où le moindre gamin qui prend une BD dans une librairie, il y a des libraires parmi nous, on a toujours un adulte pour lui dire « Ah non, 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 je t'ai dit que je t'ai acheté un vrai livre ». Enfin, ouais. il faut arrêter. D'abord, ça n'est pas une vache sacrée, la littérature, et ça ne doit être que du bonheur et du plaisir.
Pour faire lire Chéri, on peut le provoquer, justement, on peut l'exciter, on peut l'apprivoiser aussi avec un roman d'aventure ou un prix Goncourt populaire.
Oui.
Pierre Lemaître,
ouais,
par exemple.
Oui, tout à fait. Le Pierre Lemaître, c'est... C'est vrai que je préfère les polars de Lemaître, mais son Goncourt est absolument remarquable de grand roman populaire qui part de la guerre de 14, qui décrit cette escroquerie, qui a une, notamment la première page sur la guerre de 14 avec la tête de cheval, c'est exceptionnel.
Mmh. Et pourtant, voilà. Vous dites qu'il faut bannir les livres de plus de 300 pages.
Non,
pour Chéri, hein.
Je dis qu'il faut peut-être pas commencer. Le Chéri en question qui lit pas. Je dis qu'il faut peut-être pas commencer par Guerre et Paix. Je dis que Ordo d'Oesleg, qui est un chef-d'œuvre qui doit faire 120 pages, se lit sans doute plus facilement que Guerre et Paix ou que les Karamazov ou que l'Idiot. Voilà. Je dis qu'il faut faire attention aussi à la peur des gens et au fait qu'on leur a tellement intégré dans la tête qu'ils n'étaient pas lecteurs, que si on les met devant des gros romans, ils se disent tout de suite « non, c'est pas pour moi ».
Pourquoi les femmes lisent-elles plus que les hommes, Régine de Tambelle?
Ça me fait rire. Non, ça me fait rire parce que c'est toujours l'idée de pourquoi ont-elles eu besoin peut-être de creuser leur fort intérieur, pourquoi ont-elles eu accès à ça. Moi, je préfère ne pas répondre, je ne suis pas sociologue.
mais d'après vous, vous avez bien une petite idée, non? Même pas?
Écoutez, eh bien non, parce que moi j'ai plein d'amis hommes qui sont des grands lecteurs.
Ben oui, c'est ça, ouais.
Et il y a plein de femmes qui n'ont jamais ouvert un bouquin et qui n'ont aucune compétence de récit de soi et d'écoute de l'autre. Donc vraiment là, je me méfierais du sexisme.
Alors Vincent dit justement, nous sommes des lecteurs en puissance, il suffit d'une rencontre entre un homme et un livre pour que celui-là se mette à lire et ne s'arrête que mort.
Et il s'arrête mort avec un regret immense. Enfin, moi, ce qui va être terrible le jour où je vais mourir, c'est pas tellement ce que je vais lâcher, c'est l'ensemble des bouquins que je n'aurais pas lus. C'est, ouais. c'est atroce de se dire qu'on est fini dans le temps de lecture qu'on a.
Ouais, vous dites que vous devez tout au libraire.
Je dois tout, ouais.
Ils ont été vos guides, vos découvreurs.
Oui, oui, je dois énormément aux médiathécaires et aux libraires, oui, bien sûr. Moi, je suis issu du... C'est ma mère qui m'a fait lire. Ma mère est une autodidacte qui a commencé à 16 ans, qui était une grande lectrice, mais il y a des tas de choses qui lui avaient échappé, comme tous les autodidactes. Et s'il n'y avait pas eu les médiathécaires et les libraires, il y a des pans entiers de la culture littéraire que j'ai creusé après, qui m'auraient échappé qui m'ont amené.
Bon, on va laisser la place aux libraires, on va voir hein, ceux qui vous ont guidé, ce qu'ils pensent de votre livre. Ils ne sont pas toujours commodes, hein, vous savez Vincent, on va commencer avec le moins facile, hein, comme ça vous serez débarrassé. Jérémy Laniel, pour le Canada, quel est votre avis?
Quelle admirable et quasi inattaquable entreprise que celle de répandre le plaisir de la lecture, comme Monadé désire le faire avec son livre.
Ouais.
Par contre, je me désole à y avoir trouvé qu'une succession de lieux communs et de généralisations quant aux hommes, d'oubli d'un ton patriarcal pour la lectrice à qui il s'adresse. Mais bon, peut-être que je n'ai pas d'humour, qui sait?
Non, mais il est intraitable, c'est pas possible. Laura Sanchez, pour la Suisse, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Alors moi, je vais un peu nuancer, mais c'est vrai qu'il se trouve que moi, j'adore les livres qui parlent de livres. Ça me plonge dans une sorte de paralysie positive. Un mélange de joie et de rage de n'avoir pas encore lu le 10e des livres dont vous parlez. Mais bon, c'est vrai que sous ces airs de livre humoristique, moi j'y vois plutôt un livre très personnel où vous racontez votre vie de lecteur. Il y a juste, effectivement, ces passages où vous décrivez cet hypothétique homme de notre vie qui m'ont assez vite lassé. Mais n'empêche qu'en refermant ce livre, on est stimulé, déculpabilisé et affamé de nouvelles lectures.
Voilà, vous avez pris des risques, Vincent Monadé, parce que c'est vrai que c'est très personnel. C'est vrai que vous osez l'humour et que vous allez très loin dans ce sens-là. On s'attendait pas vraiment à ça de vous, et du coup, vous osez. Alors, évidemment, la critique est là.
Je pense pas avoir l'habitude d'employer la langue de bois,
non,
y compris quand je parle en tant que, dans ma fonction, en tous les cas.
Vous êtes président du Centre national du livre en France.
Dans la fonction qui est la mienne, donc il n'y avait pas de raison que je sois différent là. Moi, je me suis beaucoup amusé. Je comprends très bien qu'on puisse le recevoir autrement. Moi, j'ai beaucoup ri à l'écrire et j'ai beaucoup aimer jouer avec ces codes complètement débiles des hommes et des femmes qui m'ont vraiment énormément amusé, parce que je pense que tout ça est assez stupide et que quand on lit certaines formes de presse, etc. On est totalement là-dedans, et donc jouer avec, moi, ça m'a beaucoup amusé.
Alors, sous ces airs légers, il y a une réflexion profonde, à l'image d'ailleurs du livre de Régine de Tambelle, parce que vous expliquez que la grande littérature, c'est un sésame. Vous dites que si elle n'a pas le pouvoir de changer une vie, cette littérature, elle l'éclaire comme un Vermeer. Et ça illustre exactement ce que disait Régine de Tambelle, à qui on va donner la parole, sur le pouvoir thérapeutique de la lecture. Car le pouvoir thérapeutique de la lecture, on le sent tout au long de votre essai, Vincent. Régine.
Oui, absolument.
Vous l'avez lu, son livre, d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr. Et justement, je disais tout à l'heure à Vincent, j'ai tiré un fil, un seul fil, parce qu'évidemment, je ne peux pas prendre trop longtemps la parole, mais ce que j'ai trouvé admirable dans son ouvrage, c'est l'idée de donner à chaque fois un livre à lire ensemble, oui. C'est-à-dire dans le couple. Parce que ça, moi, je l'ai travaillé dans le conseil conjugal, dans la manière dont on peut ramener l'un vers l'autre deux éléments d'un couple qui ne savent plus comment s'aimer, mais qui sont encore dans l'affectif, plutôt que rester les yeux dans les yeux. Ça, j'ai écrit dans le TGV. Vous voyez, c'est ce que m'a inspiré.
Voilà, je vous dis,
plutôt que rester les yeux dans les yeux, ne plus voir que ses défauts, mais regarder ensemble un livre, le même, c'est aussi regarder ensemble dans la même direction, et on y fait entrer le monde entier. Voilà. Et là, je trouve que dans cette partie-là, Vincent Monnadier a fait vraiment un travail de bibliothérapeute.
Et c'est vrai qu'il dit que faire lire est un acte d'amour, mais lire n'est pas une obligation.
Non, lire n'est absolument pas une obligation. Je crois qu'on peut être heureux sans lire. Je pense simplement qu'on est plus heureux quand on lit. Interdire ou bloquer des gens dans l'accès à ce plaisir est quasiment criminel. C'est pour ça que faire lire est un acte d'amour. Faire lire ses enfants est un acte d'amour. Faire lire son mari, sa femme, ses amis est un acte d'amour. Offrir un livre est un acte d'amour profond qui signifie quelque chose. Voilà, et ça, j'y crois profondément.
Et il y a plein de conseils. Hein. On trouve Jean-Claude Izzo, par exemple. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Jean-Claude Izzo. Jean-François Asseuil, vous acquiescez, vous aimez Izzo ?
Magnifique
auteur marseillais.
Izzo
qu'on découvre, on découvre Astérix, on découvre Le Maître, on découvre plein d'auteurs. Il y a plein d'idées comme ça. Et on va terminer avec une proposition pour faire lire les hommes. Vous proposez... Excusez-moi, je ris avant de le dire. Vous proposez le chantage affectif.
Oui, je propose le chantage affectif qui est la pire forme de chantage qui puisse exister, je crois. Je sais que le second degré est mort quelque part autour des années 2010, mais quelqu'un qui lit ça sans comprendre que c'est du second degré, moi je peux plus rien y faire. Là, je suis évidemment dépassé par les événements. Effectivement, je dis, écoutez, il veut pas lire. Voilà, pas de relation. Voilà. Il veut lire, relation. Mais ça me paraît tellement évident que c'est
mais il y a des conseils, en tout cas.
Il y a surtout, je crois, vraiment une défense et une illustration de ce qu'est la littérature et de ce qu'elle peut apporter aux gens.
Merci beaucoup Vincent Monnadet, merci d'être venu pour la première fois dans la librairie francophone. Comment faire lire les hommes de votre vie est paru aux éditions Payot. Le livre de Régine de Tambelle, Les livres prennent soin de nous, c'est en poche chez Babel. Et il y a l'album Didier, ici et ailleurs, qui est paru chez Sony Music. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission éclectique et foisonnante. À très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici le groupe suisse Adieu Gary Cooper. Adieu Gary Cooper, il commence à faire noir, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Philippe Duclos et Kevin Pelot, Djoubaka à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouet en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci beaucoup Idir, à très bientôt.
Merci
Tanina, Jean-François, Vincent Monadé, Régine Détambel, à très bientôt. Événement la semaine prochaine, nous recevrons le Canadien Alexandre Trudeau, frère du Premier ministre du Canada, pour un carnet de voyage en Chine, et il sera question du festival étonnant voyageur avec le breton Yann Kefelec et l'haïtien Néhémie Pierre Dahomey. Une rencontre là encore. Bonne semaine, bon week-end. Salut.